VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Libye, les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, ont annoncé aujourd'hui avoir repris le contrôle total de Sirte et défait les djihadistes de l'organisation État islamique qui avait fait de cette ville leur bastion dans le pays. Nos forces ont repris le contrôle total de Sirte, a déclaré à l'AFP Rida Issa, porte-parole de l'opération militaire lancée le 12 mai par le GNA. Nous avons constaté aujourd'hui un effondrement total des djihadistes et des dizaines d'entre eux se sont déjà livrés à nos forces, a précisé M. Issa. La page Facebook des forces loyalistes libyennes proclame aussi la victoire et le retour de Sirte à la Libye. Ce succès intervient plus de 6 mois après le lancement de l'offensive pour reprendre la ville portuaire conquise en 2015 par l'État islamique. Les combats ont été meurtriers avec près de 700 morts et 3000 blessés dans les rangs des forces loyalistes. Pour le groupe ultra-radical, la perte de Sirte est un nouveau coup dur après une série d'échecs militaires en Irak et en Syrie, où les djihadistes sont actuellement attaqués dans leurs fiefs de Mossoul et de Raqqa. Sénégal, une conférence sur la paix et la sécurité se tient aujourd'hui et demain à Dakar. Elle doit s'achever par une rencontre entre plusieurs chefs d'État représentant diverses régions du continent africain. Précision à Dakar avec le journaliste et spécialiste des questions de défense et de sécurité, Ibrahima Khalil Ndiaye, au micro de Gabi Dorsil.
Fondamentalement, c'est vrai que je suis de mettre en contact des experts, des professionnels, des acteurs du monde de la sécurité, de la diplomatie, du monde politique, et des députés, pour quand même qu'ils puissent en débattre, puissent poser des problèmes et l'amorcer sous différents angles. C'est ça, en tout cas, l'objectif qui est visé. Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui se fait réellement, il y a un petit décalage et on va avoir une participation de l'ordre de 500 personnes. Le nombre a diminué par rapport à la dernière édition. Il y aura 9 plénières dans des 3 blocs différents où on parlera de différentes choses, du terrorisme à l'accès aux ressources comme l'eau, les minéraux ou autres qui sont aujourd'hui des sources de conflit. Et essayer quand même de mettre en branle des recommandations qui seront soumises à la table ronde du chef d'État qui tiendra le mardi après-midi.
Combien de chefs d'État doivent prendre part mardi à la séance finale?
Maintenant, je ne sais pas combien de chefs d'État seront réellement présents, puisque ça aussi, il y a une confusion générale. Ils n'ont pas communiqué et je n'ai pas encore eu connaissance des avions qui viennent de débarquer à Dakar transportant des chefs d'État.
Le journaliste sénégalais Ibrahima Khalil Ndiaye. Au Mali, après son démarrage la semaine dernière à Sikasso, le procès de l'ancien chef de la junte militaire Amadou Aya Sanogo n'est toujours pas entré dans le vif du sujet. Le procès bute principalement sur des incompréhensions entre les organisateurs et les avocats de la défense. Pour certaines personnes, toutes ces actions ne sont que des tentatives pour faire reporter le procès. Notre envoyé spécial sur place, Kassim Traoré, a recueilli quelques plaintes.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le report. Voilà, parce que pour moi, tout devait être planifié, en tout cas avant le jour J qui est le 30 novembre. Donc ce n'est pas le jour J de la course qu'il faut apprendre quand même à courir.
Ce n'est pas une bonne chose parce que les gens s'entendent à ça. Il y a la population royale qui s'entend à ça. Il y a des gens qui savent ce qui s'est passé réellement. Il y a eu des enlèvements de personnes assassinées. Maintenant, il faut que la cour, ou bien on donne la voix aux accusés et à la partie civile d'exprimer, malgré les investigations faites par les officiers de police judiciaire.
Moi, personnellement, je me suis déplacé de Kouchala pour ces questions. Cette situation. Le mercredi, j'étais là, j'ai pas pu entrer. Aujourd'hui encore, je suis revenu. On nous demande que ça a été reporté encore. Donc, vraiment, moi, je suis pas content.
Des réactions sur le procès Sanogo recueilli par Kassim Traoré. Le Ghana élit mercredi son nouveau président, un moment charnière pour le pays selon le principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la 3e fois à la présidence et fera face mercredi au président sortant, John Mahama, qu'il avait battu en 2012. Le chef de file du NPP, le nouveau parti patriotique, a accusé le parti au pouvoir d'encourager les violences pendant que la police détourne les jeux, alors que le Ghana est traditionnellement perçu comme un exemple démocratique en Afrique. Les craintes que le Ghana perde son image pacifiste ont d'ailleurs dominé cette campagne présidentielle. Le parti de l'opposition a dénoncé des tensions, des intimidations sur les électeurs et a aussi questionné l'indépendance de la commission électorale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Politique en RDC, la Belgique suggère de reporter tout voyage dans l'essentiel en République démocratique du Congo alors qu'approche la fin du mandat du président Joseph Kabila que l'opposition congolaise accuse de s'accrocher au pouvoir. C'est ce qu'indique le site du ministère belge des Affaires étrangères. Vu les tensions politiques et les risques de nouvelles manifestations d'ici à la fin de l'année en RDC, il est recommandé de reporter provisoirement tout voyage non essentiel vers la République démocratique du Congo, peut-on lire ce lundi dans la section Conseil par destination du ministère belge. Le mandat de M. Kabila au pouvoir depuis 2001 prend fin le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Mais ces élections qui devaient avoir lieu en fin d'année ont été reportées sine die. Le chef de l'État congolais est pressé par ses détracteurs de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Ils se disent déterminés à organiser des manifestations populaires le 19 décembre pour le contraindre à quitter le pouvoir. Politique au Gabon, la présentation du rapport final des observateurs de l'Union européenne sur l'élection présidentielle gabonaise, prévue en principe ce mercredi, a été reportée à la demande des autorités. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la délégation de l'Union européenne au Gabon. La date qui nous a été proposée est le 12 décembre, a souligné la délégation de l'UE à Libreville, dans un message à la presse en promettant de confirmer l'information dès que possible. Le rapport devait être présenté après-demain à Libreville par la chef de la mission d'observation européenne, l'eurodéputée bulgare Maria Gabriel, date qui aurait coïncidé avec la visite officielle du président gabonais Ali Bongo Ondimba en Chine du 6 au 8 décembre. Il n'est pas souhaitable que le rapport soit présenté en l'absence du chef de l'État, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement gabonais Alain-Claude Bilibi Nze. Madame Gabriel avait évoqué des anomalies pendant l'élection dans un pré-rapport présenté en septembre, juste après le scrutin à tour unique du 27 août, remporté officiellement par le président Bongo avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour le leader d'opposition Jean Ping. Mais M. Ping conteste ces résultats et se proclame le président élu du Gabon. Le leader d'opposition a promis de s'adresser solennellement au peuple gabonais après la publication de ce rapport. Politique aux États-Unis maintenant, le président élu Donald Trump a nommé aujourd'hui son ancien rival au primaire, le docteur noir américain Ben Carson, au poste de ministre du Logement et de l'Urbanisme dans son futur gouvernement. Le docteur Carson a été un des premiers adversaires du milliardaire à se rallier à sa cause pendant la campagne présidentielle. Par ailleurs, Donald Trump fait encore froncer les sourcils, cette fois à cause d'une conversation téléphonique avec la présidente de Taïwan, en raison du fait que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement qu'une seule Chine, celle de Pékin. Washington n'entretient en effet aucun lien diplomatique avec Taïwan depuis 1979. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les médias n'ont pas attendu longtemps pour souligner la portée diplomatiquement dangereuse d'une telle démarche, faisant remarquer que depuis des décennies, le gouvernement américain ne reconnaît que la Chine communiste. L'équipe de Donald Trump a pourtant minimisé l'importance de la conversation téléphonique du président élu avec la chef d'État taïwanaise Tsai Ing-wen. C'était un appel de courtoisie, a déclaré le vice-président élu Mike Pence hier au programme télévisé ABC This Week. C'est un peu mystérieux de voir que le président Obama puisse rencontrer un dictateur assassin à Cuba l'année dernière et être salué comme un héros pour l'avoir fait. Et quand le président élu Donald Trump reçoit un appel de courtoisie du dirigeant démocratiquement élu de Taïwan, cela donne lieu à une controverse. Mike Pence admet néanmoins que Donald Trump a l'intention d'adopter une position plus ferme envers la Chine sur le commerce et d'autres questions. Il va se battre pour les emplois des Américains et nous allons cesser de perdre face à la Chine et à d'autres pays, a déclaré le vice-président élu. Jusqu'à présent, la réaction chinoise à l'entretien téléphonique entre Trump et la présidente de Taïwan a été plutôt modérée. C'était juste un coup médiatique de Taïwan, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Cela ne changera pas le fondement international de la politique d'une seule Chine que les États-Unis ont respecté depuis des années, a-t-il ajouté. Bien qu'il n'y ait pas de relations diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan, les deux ont coopéré sur le plan militaire pendant des décennies. Le grand mystère, c'est ce que pourrait faire Donald Trump une fois aux commandes à la Maison-Blanche.
Conflit en Syrie, les forces pro-gouvernementales syriennes se rapprochent de leur objectif de reprendre le contrôle de la totalité d'Alep, la deuxième ville du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui à New York sur une résolution demandant une trêve d'au moins 7 jours à Alep et un accès humanitaire aux habitants de la grande métropole du nord de la Syrie, pris au piège dans les combats. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.